monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 12 septembre 2024. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye va s'adresser à la nation ce soir. En ligne de mire, la venue du Parlement. En RDC, 20 civils exécutés par des rebelles dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Toujours en RDC, l'ONU a rapatrié aujourd'hui 266 réfugiés burundais des camps de Moulongwe.
C'est eux-mêmes qui ont compris qu'ils sont persécutés. Étant en RDC, peut-être ils ont évalué la situation sécuritaire chez eux. On peut supposer que pour eux, la sécurité est bonne.
Jules Lèche-Mandat de la Commission nationale pour les réfugiés dans le Sud Kivu nous en dira plus dans la partie magazine. Deux astronautes de la mission Polaris Dawn de SpaceX ont réalisé aujourd'hui la toute première sortie privée dans l'espace. L'état d'urgence a été décrété à Los Angeles, la mégalopole américaine étant menacée par des incendies d'ampleur. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité américaine. Les deux candidats à la Maison-Blanche repartent ce jeudi à la conquête des voix. Donald Trump organise un meeting de campagne dans l'Arizona. Le candidat républicain doit prononcer un discours axé sur l'économie depuis Tucson, une ville universitaire à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Mexique. Sa rivale démocrate sera au même moment en Caroline du Nord. La vice-présidente compte sur les voix des Africains-Américains et des jeunes, remotivés par sa candidature pour l'emporter face au candidat républicain dans cet État. SpaceX a réalisé ce jeudi la première sortie spatiale privée de l'histoire avec sa mission Polaris Dawn. Ses deux membres d'équipage sont sortis du vaisseau Dragon pour tester des nouvelles combinaisons. Nathalie Bache.
Le commandant de la mission Jared Isaacman et l'ingénieur de SpaceX Sarah Gillis sont sortis individuellement de la capsule, se tenant à une rampe extérieure. Le pilote Scott Pottit et l'autre ingénieur de SpaceX Anna Menon ont aussi été exposés au vide spatial à l'ouverture de l'écoutille du vaisseau. Le directeur de la NASA, Bill Nelson, a félicité SpaceX et a déclaré que cette sortie dans l'espace représente un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale. Jusqu'ici, toutes les sorties spatiales ont été effectuées par des astronautes professionnels. Après son lancement mardi du Centre spatial Kennedy en Floride, le vaisseau Dragon s'est stabilisé sur une orbite ovale de 190 à 1400 km de la Terre, la plus grande distance jamais atteinte depuis la dernière mission lunaire Apollo en 1972.
Le gouverneur de Californie a déclaré hier l'état d'urgence à Los Angeles et dans les comtés avoisinants face aux incendies qui menacent la mégalopole. Les feux ont déjà détruit des dizaines de maisons et obligent des milliers de résidents à évacuer. Nani Talani.
Le gouverneur Gavin Newsom a proclamé l'état d'urgence dans les comtés de Los Angeles et de San Bernardino pour lutter contre l'incendie du Bridge Fire et dans les comtés d'Orange et de Riverside pour combattre l'incendie de l'Airport Fire. Le nord-est de la mégapole est en proie à un autre feu, le Line Fire. Les trois feux ont déjà consumé près de 43 000 hectares et continuent de menacer la sécurité des habitants et de perturber les activités locales. Les résidents des localités de Whitewood, Mount Baldy et des villages de montagne ont reçu l'ordre de quitter leur domicile tandis que les routes sont bloquées. Au moins 33 habitations et plusieurs cabanes ont été détruites par le feu. Avec plus de 5 700 personnes mobilisées, les autorités font tous les efforts possibles pour contenir les feux exacerbés par une vague de chaleur intense. Un trentenaire soupçonné d'être à l'origine de l'incendie du Line Fire a été interpellé mardi, selon la justice.
Vladimir Poutine a affirmé aujourd'hui que si les Occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à plus longue portée, cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. L'Ukraine réclame d'obtenir l'autorisation de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe avec des missiles livrés par les Occidentaux. Le président Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer doivent s'entretenir demain vendredi sur la question. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui des sanctions d'arrestation à l'encontre de 16 responsables proches du président vénézuélien Nicolas Maduro, affirmant qu'ils avaient entravé le déroulement de l'élection présidentielle du 28 juillet. Ces personnes comprennent des dirigeants du Conseil national électoral et du Tribunal suprême de justice. Les sanctions visent notamment le juge et le procureur qui a émis un mandat d'arrêt contre l'opposant Edmundo González Urrutia, réfugié en Espagne depuis dimanche. Le Venezuela a dit ce jeudi rejeter avec la plus grande fermeté ces sanctions américaines.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye va s'adresser ce soir à la nation à 20h temps universel, un discours très attendu et qui suscite beaucoup de commentaires. Le chef de l'État sénégalais pourrait annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. La correspondance de Wani Johnson Sambou Adabou.
Pour beaucoup de Sénégalais, il n'y a aucun doute. Le président Bassirou Diomaye Faye ne doit pas tarder à annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Peut-être même aujourd'hui, le chef de l'État va s'adresser à la nation ce soir à 20h GMT dans un contexte de crise entre l'exécutif et les parlementaires de l'opposition. La dissolution de l'Assemblée nationale paraît inéluctable depuis la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars dernier. Sa coalition souhaite se donner une majorité dans une Assemblée nationale actuellement contrôlée par l'ex-coalition au pouvoir, Benno Bokk-Yakaar. Le rejet par les députés du projet de dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental le 2 septembre dernier a donné plus de légitimité à la volonté des partisans du pouvoir de voir l'Assemblée nationale dissoute. Ce 12 septembre marque le délai constitutionnel autorisant le chef de l'État à dissoudre le Parlement et convoquer des législatives anticipées. Cette date marque en effet les 2 ans d'installation de la 14e législature, délai fixé par l'article 87 de la Constitution avant toute dissolution. Wahani Johnson Sambou, Dakar, VOA Afrique.
En Ituri, dans le nord-est de la RDC, 20 civils ont été exécutés par les rebelles des forces démocratiques alliées, les ADF, affiliés au groupe État islamique. Ce massacre survient dans un contexte de violence persistante et soulève des appels urgents pour une action gouvernementale plus efficace. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon des sources locales, les ADF ont mené une attaque meurtrière dans la chefferie de Babila Babombi, un territoire de Massamba fréquemment ciblé par les rebelles et les milices locales. Rams Maliki Dogo, défenseur des droits humains, précise que les 20 victimes ont été capturées lors de plusieurs attaques contre des villages voisins avant d'être regroupées dans la forêt pour être exécutées. Les victimes, a-t-il ajouté, étaient principalement des orpailleurs, des commerçants et des agriculteurs. Matadi Mouyapandi, administrateur policier du territoire de Mambasa, décrit l'horreur de l'attaque. Des victimes ont été décapitées, ce qui est le mode opératoire des ADF. Un humanitaire local a appelé à une réponse militaire pour récupérer les corps et les enterrer dignement. Le massacre a été perpétré dans un lieu isolé et il nous faut la présence des militaires pour récupérer les corps et les enterrer dignement, a-t-il déclaré. Malgré les opérations militaires conjointes lancées fin 2021 par Kampala et Kinshasa contre les ADF, les rebelles continuent leurs exactions, se repliant dans des zones difficiles d'accès. Des experts estiment que ces opérations ont simplement dispersé les rebelles qui continuent de s'en prendre aux civils.
En Afrique du Sud, le chef de l'Alliance démocratique, DA, principal partenaire de l'ANC et du président Cyril Ramaphosa au sein de la coalition gouvernementale, n'a pas exclu aujourd'hui de quitter le gouvernement qui connaît sa première grave crise après moins de 3 mois d'existence. La DA conteste le projet du président Ramaphosa de promulguer demain vendredi, une loi sur l'éducation adoptée avant les législatives et réclame son retour devant le Parlement. La DA, principal parti d'opposition, détient 6 portefeuilles dans ce gouvernement d'unité nationale formé le 30 juin après les législatives où le Congrès national africain a perdu la majorité absolue qu'elle détenait depuis la fin de l'apartheid en 1994. Le chef du principal parti d'opposition tanzanien a demandé la démission du ministre de l'Intérieur et des dirigeants des services de sécurité et menacé de manifestations si aucun d'entre eux ne réapparaît d'ici le 21 septembre. Cet ultimatum lancé par Freeman Mbowe intervient après le meurtre d'un membre de la direction du parti Chadema, Ali Mohamed Kibao, enlevé vendredi et retrouvé mort le lendemain. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Nigeria, le ministère des Finances a annoncé qu'Abuja va commencer à vendre du pétrole brut en Naira à la raffinerie Dangote à partir du 1er octobre pour alléger la pression sur les devises étrangères pesant sur la principale raffinerie du pays. Dangote, qui auparavant devait acheter du pétrole sur le marché international, a accusé le régulateur pétrolier local de ne pas appliquer une loi qui oblige les producteurs à approvisionner les raffineries domestiques. Les agriculteurs zimbabwéens disent vouloir capitaliser sur la demande mondiale croissante de myrtilles, mais se heurtent à un soutien minimal du gouvernement et au manque de financement. Malgré la croissance récente du secteur, les banques sont réticentes à financer l'agriculture en raison de l'incertitude du régime foncier, ce qui rend difficile les activités pour les agriculteurs noirs. Le Zimbabwe a produit 7000 tonnes de myrtilles l'an dernier. Pour terminer, l'acheteur public de céréales égyptiennes a acheté 430 000 tonnes de blé russe pour l'expédition d'octobre dans le cadre d'une transaction privée cette semaine en dehors de la procédure traditionnelle d'appel d'offres, ont déclaré à Reuters trois sources. L'Égypte veut profiter de la baisse des prix mondiaux pour se procurer davantage de céréales qu'elle utilise pour fabriquer du pain subventionné pour des dizaines de millions d'Égyptiens.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rougier, bonsoir à tous.
Le Cameroun tombe en huitième de finale du mondial féminin des moins de 20 ans.
Oui, les Lions indomptables ont perdu 3-1 devant le Brésil en Colombie où se joue cette compétition. Naomi Eto'o avait pourtant ouvert le score pour les Camerounaises à la 22e minute, mais les Brésiliennes ont égalisé 13 minutes plus tard grâce à un pénalty transformé par Priscilla. Doudinha a inscrit un doublé dans les prolongations pour permettre au Brésil de rejoindre les quarts de finale. Les États-Unis ont eu aussi besoin des prolongations pour battre le Mexique 2-3. L'Espagne, elle, n'a pas eu besoin de prolongations pour venir à bout du Canada battu 2-1. Victoire également pour la Colombie, tombeuse 1-0 de la République de Corée. Ces matchs des huitièmes de finale se poursuivent ce soir. À suivre, entre autres, Allemagne, Argentine, France, Pays-Bas, mais aussi Japon, Nigeria. Pour notre consultant sportif, Élisée Mpatin, les Nigérianes gardent toutes leurs chances.
Bien évidemment, les Nigérianes, les jeunes filles nigérianes qui ont fait forte sensation lors de leur dernier match en triant simplement le Venezuela 4-0. Mais en face, ce sera le Japon, équipe du football féminin. Le Japon, on ne peut pas négliger ce pays-là. Et donc, ça va être un peu compliqué. Mais comme ce sont les jeunes filles, le Nigeria a commencé par faire un travail à ce niveau-là, puisque au niveau des seniors, on voit clairement que le Nigeria ne domine plus correctement cette discipline aujourd'hui en Afrique, puisqu'il y a désormais l'Afrique du Sud et le Maroc. Donc, les Nigériens ont commencé par faire un travail à la base et ça a commencé par se faire sentir. En tout cas, on espère vivement avoir une très belle prestation des filles nigérianes face aux jeunes filles japonaises. En tout cas, le Nigeria de la matière et on espère vivement avoir un représentant africain en quart de finale.
Élisée Mpatin, consultant sportif.
Le Paris Saint-Germain ne paiera pas les 55 millions d'euros d'impayés à Kylian Mbappé.
Le Paris Saint-Germain a annoncé qu'il ne verserait pas les 55 millions d'euros d'impayés que la Ligue de football professionnel lui a ordonné de verser à Kylian Mbappé, prévenant que le joueur devrait saisir une autre juridiction. Mbappé avait saisi la commission juridique de la LFP qui s'est réunie mercredi en présence des deux parties. La commission a d'abord préconisé une médiation, mais face au refus du joueur, a demandé au PSG de payer les 55 millions. Dans la foulée de cette annonce, le club a indiqué dans un communiqué que l'affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction. Avant la décision de Mbappé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, le joueur avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le PSG en août 2023. Après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois, Mbappé demande le versement des 55 millions d'euros qui comprend l'ultime tiers d'une prime à la signature 36 millions d'euros bruts que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat avril, mai, juin, ainsi qu'une prime éthique sur ces trois mois.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. 266 réfugiés burundais qui avaient fui après la tentative de coup d'État de 2015 ont été rapatriés aujourd'hui d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rapatriement n'avait plus eu lieu depuis quelque temps à cause de la montée des eaux du lac qui submergeait la route à la frontière entre le Burundi et la RDC. Eddie Isango, adjoint à Uvira, Jules Lèche-Manda, il est le responsable intérimaire de la Commission nationale pour les réfugiés de la RDC dans le sud Kivu.
On a rapatrié 74 ménages de 276 personnes. Ils proviennent du territoire de Fizi, où il y a un camp de Mulungwe. C'est depuis hier qu'ils sont venus à Uvira, dans un centre de transit ici. C'est aujourd'hui qu'on les a rapatriés vers leur pays d'origine.
Et c'est depuis combien de temps que ces réfugiés étaient en RDC et pourquoi avaient-ils fui leur pays?
La plupart sont venus en 2015.
Maintenant que vous les avez rapatriés, c'est certain qu'ils avaient fui pour raison d'insécurité. Est-ce que leur sécurité est assurée au Burundi?
Oui, le rapatriement est volontaire. Les réfugiés, quand ils viennent de leur pays, ils nous disent qu'ils ont fui la persécution. C'est eux-mêmes qui ont compris qu'ils sont persécutés. Étant en RDC, peut-être ils ont évalué la situation sécuritaire chez eux. C'est à eux-mêmes de vérifier comment ils se sont décidés de rentrer. On peut supposer que pour eux, la sécurité est bonne. Nous sommes un État, nous sommes un pays indépendant. Nous n'allons pas vraiment aller vérifier ou s'ingérer sur la politique interne du Burundi. Tout ce que nous savons, en 2015, il y a eu une perturbation politique, il y a eu des vagues de réfugiés qui sont venus, ce sont des décès en RDC. C'est tout ce que nous connaissons. Voilà, nous connaissons qu'il y a eu un problème lié au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Tout a bâclé là-bas. Et voilà, maintenant qu'il est juste pour de rentrer, on suppose qu'ils ont évalué que chez eux, il y a la sécurité. Parce qu'il y a des missions même de GONC visite qui proviennent du Burundi pour sensibiliser leurs compatriotes au retour. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont compris le message du Burundi. Voilà, ils se sont décidés pour être.
Et au Burundi, comment va se faire les réinsertions? Où arrivent-ils? Qu'ils vont-ils faire?
Bon, nous avons le cadre juridique qui nous lie pour le rapatriement. Nous faisons des réunions transfrontalières ou des tripartites où nous définissons les conditions de retour. Je pense qu'ils seront intégrés très bien à travers les affaires de nos collègues du gouvernement burundais. Je pense que tout va bien se passer. Ça, c'est à leur niveau qu'il faut bientôt peut-être plutôt demander. Mais on a commencé le rapatriement. Il y a longtemps, on suppose que tout va pas bien.
Donc ça, c'est une énième vague des rapatriements.
Pour cette année, c'est le deuxième rapatriement parce qu'on a eu des blocages au niveau de la route. La route d'Uvira vers Fizi a connu des problèmes. Il y a eu la montée des eaux qui empêchait qu'on fasse ce rapatriement. Maintenant que les eaux ont baissé, voilà, nous avons repris. C'est le deuxième convoi.
Jules Lèche-Manda, responsable intérimaire de la Commission nationale pour les réfugiés de la RDC dans le sud Kivu.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Des délégués de plus de 30 pays africains et des États-Unis ont conclu un sommet de deux jours sur l'intelligence artificielle au Nigeria afin de promouvoir le développement et le déploiement sûr de l'intelligence artificielle en Afrique et au-delà. Timothy Obiezu revient sur cette rencontre, fruit d'un partenariat entre les autorités nigérianes et les États-Unis. Le récit est d'Alexandre Nolognon.
La conférence panafricaine de deux jours sur l'intelligence artificielle, organisée conjointement avec les États-Unis, s'est achevée mercredi à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Des centaines de délégués, dont des fonctionnaires, des leaders technologiques, des leaders politiques, des universitaires et entrepreneurs ont participé à la conférence pour discuter du développement et de l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables en Afrique. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell, s'est exprimé lors du sommet sur les opportunités.
A global technology revolution is well underway.
Une révolution technologique mondiale est en cours. La course au développement et au déploiement de nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, façonne déjà tous les aspects de notre vie. Notre objectif est de favoriser la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique en matière de recherche sur l'intelligence artificielle.
La conférence constitue une étape importante pour l'avenir technologique de l'Afrique. M. Campbell a déclaré que l'intelligence artificielle pouvait être utilisée pour résoudre des problèmes tels que la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'énergie et le changement climatique.
I cannot overstate Africa's growing importance in the global technology.
Je ne saurais trop insister sur l'importance croissante de l'Afrique dans le paysage technologique mondial. La stratégie historique de l'Union africaine en matière d'IA établit la feuille de route permettant aux pays africains d'exploiter le potentiel de l'IA pour réaliser leurs aspirations en matière de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, de la paix et de la sécurité, ainsi que de la bonne gouvernance.
En juillet, l'Union africaine a lancé la stratégie d'intelligence artificielle du continent, affirmant que l'IA est essentielle pour transformer l'Afrique en un centre technologique mondial, et elle a appelé les États membres à adopter la stratégie. Mardi, le ministre nigérien de la communication, de l'innovation et de l'économie numérique, Bosun Tijani, a annoncé l'octroi d'une subvention de 69 000 dollars aux start-up nigériennes les plus brillantes dans le domaine de l'IA.
Pour que nous puissions véritablement exploiter l'intelligence artificielle au profit de nos avantages collectifs, nous devons adopter une approche délibérée et collaborative. Nous devons simplement veiller à ce que notre parcours de transformation numérique soit inclusif, équitable et axé sur l'humain.
L'Afrique représente actuellement 2,5% du marché mondial de l'IA. Selon l'organisation Artificial Intelligence for Development Africa, mais les analystes affirment que si l'on parle davantage d'une utilisation sûre, les applications de l'IA pourraient stimuler l'économie africaine de 2,9 milliards de dollars d'ici 2030, les marchés du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Nigeria prenant la tête du peloton.
Politique américaine, rien que cette année, environ 8 millions de jeunes vont avoir 18 ans, l'âge de voter. Près de 41 millions de membres de la génération Z, les personnes âgées de moins de 27 ans, pourront voter lors de l'élection présidentielle de 2024. Les détails avec Rosine Monezero.
41 millions de jeunes américains âgés de 18 à 27 ans pourront voter en novembre prochain et ils peuvent faire la différence, non pas en raison de leur âge, mais de ce qu'ils sont. William Frey, de l'Institut Brookings.
La partie la plus jeune de la population sera beaucoup plus diversifiée sur le plan racial que la population plus âgée des baby boomers.
Alberto Medina, de l'Université Tufts.
Près de la moitié des jeunes de la génération Z sont des jeunes de couleur et environ un cinquième d'entre eux s'identifient comme homosexuels d'une manière ou d'une autre. Il s'agit donc d'une génération très diversifiée, non seulement en termes d'identité, mais aussi en termes de parcours, d'expérience et de points de vue.
Historiquement, les jeunes votent moins que les adultes plus âgés, mais cette jeune génération se montre plus active politiquement que les autres générations au même âge. Alberto Medina.
L'un des faits marquants des derniers cycles électoraux a été la forte augmentation du taux de participation des jeunes aux élections. Nous estimons que 39% d'entre eux ont voté en 2016 et 50% en 2020.
En ce qui concerne les législatives demi-mandat, des élections où la présidence n'est pas en jeu, les jeunes d'aujourd'hui ont été plus actifs que les générations précédentes lors des premières élections demi-mandat pour lesquelles ils pourront voter. 28% des jeunes électeurs admissibles ont voté en 2018. C'est plus du double du taux de participation des jeunes lors des élections demi-mandat de 2014. 23% ont voté en 2022. Selon Medina, les jeunes électeurs sont motivés par des questions qui les touchent directement, comme les fusillades dans les écoles et l'économie.
Nous parlons vraiment d'une génération de jeunes qui a pris conscience de son pouvoir, de son désir de changement et qui l'a concrétisé à la fois dans les urnes et au-delà.
Lors des élections demi-mandat en 2022, les jeunes ont voté pour les démocrates plus que pour les républicains. Mais les jeunes femmes ont voté pour les démocrates à un taux plus élevé que les jeunes hommes. William Frey.
Et si Kamala Harris les incite à voter, ils voteront probablement plus fortement pour elle que Joe Biden.
Pour la présidentielle cette année, des sondages récents suggèrent que la vice-présidente Kamala Harris dévance légèrement l'ancien président Donald Trump parmi les électeurs les plus jeunes.
Selon Feeding America, un réseau de banques alimentaires aux États-Unis, les Américains gaspillent environ 41 milliards de kilogrammes de nourriture chaque année, ce qui représente environ 145 milliards de repas. Mais il existe de nouveaux moyens de haute technologie pour s'assurer que cette nourriture parvienne aux personnes qui en ont vraiment besoin. Valdia Baraputri de VOA nous en dit plus. Le récit, Michel Joseph.
C'est la nuit à Washington et les employés de Rasa, un restaurant indien, préparent des commandes à emporter. Mais, fait unique, les clients ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Ils ont commandé en se basant uniquement sur le prix, sans choisir un plat spécifique du menu. Raoul Vinod, co-directeur général de Rasa.
Nous proposons davantage de plats chauds, en particulier certaines des protéines qui ne sont pas aussi fraîches lorsqu'elles sont réchauffées le lendemain, de sorte que les clients peuvent mélanger ces ingrédients.
Les plats ont été commandés via une application mobile appelée Too Good To Go, littéralement « trop bon pour être jeté », qui met en relation des restaurants, des cafés et des supermarchés avec des utilisateurs désireux d'acheter des aliments, souvent proches de leur date de péremption, à des prix très réduits. Ce bol de Rasa coûte normalement entre 10 et 13 dollars. Grâce à l'application, il coûte 6,5 dollars. Raoul Vinod, co-directeur général de Rasa, affirme que les propriétaires de restaurants ne gagnent pas beaucoup d'argent sur ces commandes, mais que c'est mieux que de jeter de la nourriture. Et un autre avantage, cela permet d'attirer de nouveaux clients.
Nous avons beaucoup de nouveaux clients qui nous découvrent en ouvrant simplement l'application et en explorant les options disponibles autour d'eux.
Too Good To Go a été lancé au Danemark en 2015, mais s'est désormais étendu à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Chris McCauley, vice-président de la Société pour l'Amérique du Nord, indique que la plateforme compte aujourd'hui environ 8 millions d'utilisateurs aux États-Unis.
Nous avons un grand groupe d'utilisateurs qui utilisent vraiment ce service pour nourrir leur famille. Et puis nous avons aussi des utilisateurs qui adorent vraiment l'aspect du déballage associé à cela.
Lorsque les aliments doivent être jetés, une solution pratique se présente sous forme d'application. À New York, environ 400 bacs de compostage intelligent, pilotés par ces applications, sont en service. Ils permettent de recycler les restes alimentaires et de prévenir leur accumulation dans les poubelles. Selon le ministère américain de l'Agriculture, environ un tiers des aliments aux États-Unis ne sont pas consommés et se retrouvent dans les poubelles. Chris McCauley de Too Good To Go souligne que l'utilisation ou la réutilisation d'un maximum de cette nourriture non consommée devrait être un objectif national.
Il ne s'agira pas seulement d'une réponse purement politique. Il ne s'agira pas uniquement de changement de la part des entreprises. Il ne s'agira pas simplement de changement de comportement chez les consommateurs. C'est la somme de nos progrès sur tous ces aspects qui fera la différence.
La nourriture jetée n'est pas seulement un gaspillage, elle engendre également des effets néfastes pour le climat. En se décomposant, les aliments produisent du méthane, un des gaz à effet de serre les plus puissants.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Joël Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.